every choice I've made. When I arrived without a prayer on my two feet, didn't know where I'd stay. All it really means is you don't need anyone, you don't need anyone, you don't need. All it really means is you don't need anyone, you don't need anyone, you don't need. No need to worry.
Voilà, c'est un album qui s'appelle Heavy Days, qui est signé donc de Cathy Gullen and the Girls, et c'est chez V-Stone Records. Il n'y a absolument aucun mauvais album chez V-Stone. Vous avez beau fouiller le label, il n'y a rien de mauvais dans ce qu'ils font. Monsieur Pedro, il faut le réclamer à Monsieur V-Stone, ce truc-là, il faut que tu le passes dans le Bayou, c'est pas possible autrement. Cathy Gullen and the Girls, l'album Heavy Days. On poursuit avec la fille de Rufus Thomas. Je pense qu'elle doit en avoir marre depuis le temps de se faire appeler comme ça. On va tout simplement l'appeler Vanice Thomas. Il y a 2 ans, je crois qu'elle avait été parmi les 10 du mois dans Sweet Home Chicago. C'est toujours chez Seg Records. Le nouvel album 2016 s'appelle The Long Journey Home. Voici Vanice Thomas, une superbe vocaliste avec Saturday Night on the River.
Party at
Voilà, moi je sais que mon samedi soir, j'aime bien comme ça. Hein, y en a qui tournent les serviettes et puis y en a qui écoutent des choses comme Vanis Thomas, The Long Journey Home. Voilà, chacun son truc. Hein. Yeah, ça c'est super. Merci, merci. Thanks for sending the city, Miss Betsy Bond de chez Blind Raccoon. Voilà, ça nous vient de Memphis. Vanis Thomas, The Long Journey Home. On poursuit avec un nouvel extrait du sampler de Soulbag qui vient de sortir avec, je vous le rappelle, Aaron Neville en couverture. On n'écoutera pas Aaron Neville tout de suite. On va continuer dans notre série féminine avec Terry Odabi. On va rentrer de plein pied dans le gospel grâce à ce titre qui s'appelle Gentrification Blues.
This here I like to party. Over here is where I work. I ain't gonna let nobody run me out my town. You only been here for a minute. Now you're trying to kick me out.
Elle s'appelle Terry Odabi et on vient d'entendre Gentrification Blues. Voilà, dans une veine très très gospel, hein, mortel ce genre de truc. On poursuit avec une autre voix féminine, absolument rien à voir. C'est une anglaise, s'appelle Joanne Shaw Taylor. Vous la suivez peut-être comme moi depuis 15 ans. En tout cas, elle a bien mûri et puis elle s'est vraiment vraiment bonifiée d'album en album. Ce tout nouveau disque s'appelle Wild, tout simplement, tout un programme. Elle est en tournée également et elle passera par la Traverse à Cléon le 27 novembre, en deuxième partie du 14e tremplin de la Traverse. C'est à Cléon, à côté de Rouen, dans le 76, en Normandie réunifiée, hein, s'il vous plaît. Joanne Shaw Taylor, on va écouter le titre d'accroche qui s'appelle Dying to Know. Plutôt rock avec Joan Sutelor, plutôt blues rock avec Cathy Gullen and the Girls, plutôt soul avec Vanessa Tobar, plutôt gospel avec Thierry Audaby, plutôt blues soul avec Tasha Taylor. Voici maintenant J.J. Thames pour clôturer cette séquence gonzesse dans Sweet Home Chicago, une super gonzesse qu'on a vue au printemps dernier, voilà, que j'ai découvert avec délectation lors du dernier Band Blues Festival. Merci à Patrick Le Cacheur de nous avoir permis ça. D'ailleurs, c'était même pas prévu, c'était genre programmation de dernière minute, et bah putain, voilà, c'était quelque chose. J.J. Thames qui avait sorti à l'époque, c'était il y a quelques mois, ce Raw Sugar qui est enfin arrivé de chez Malaco Music dans les bacs de Sweet Home Chicago. Je vous en fais profiter encore une fois aujourd'hui avec ce I'm Living, J.J. Thames.
Lying to me, I've been angry, and now I'm tired. I done cried all the tears I'ma cry. I'm leaving first thing in the morning. I said I'm leaving first thing in the morning.
First thing in the morning.
I said I'm
leaving
first thing in the morning.
First thing in the morning.
I will leave right now. Got my duty to storm it. Change my number, yeah, that's right. You ain't gotta reach me after the night. Apartment's ready, moving truck too. The only thing I'm leaving behind is you.
I said I'm leaving
first thing in the morning.
First thing in the morning.
I said I'll leave right now. It's got my duty to storm it. Reach me after the night. Apartment's ready, moving truck too. The only thing I'm leaving behind is you.
Said I'm leaving
first thing in the morning.
First thing in the morning.
I said I'll leave right now. It's got my duty to storm me.
J.J. Thames, Jennifer Harding. L'album s'appelle Raw Sugar, J.J. Thames. Merci encore à Betsy pour l'envoi de tous ces albums. Voilà, il n'y a pas que des albums de chez Blind Raccoon dans Sweet Home Chicago, mais ceux-là sont des bons. On poursuit avec le disque du mois, Manu Lanvin and the Devil Blues, Blues, Blues and Rock and Roll avec Soul Revolution. C'est la troisième plage. Et juste derrière, l'interview en direct avec Manu.
I don't need no brand new ride. All your $100 Levi's. I need freedom for my pride. I don't need no religion. I can't change my perception.
looking for the real thing. Music, peace, and tons of love. I don't need no religion, no. I can't change my perception. Give me a true love injection. I want it all, revolution. Oh yeah.
Voilà, c'était un extrait de l'album Blues, Booze and Rock and Roll de Manu Lanvin, And the Devil Blues avec Soul Revolution. Je suis au téléphone avec Manu Lanvin. Bonjour Manu.
Bonjour.
Comment ça va?
Écoute, tout va bien depuis là où je me trouve, à Paris. Il fait gris, Paris, il fait souvent gris, tu sais.
Je te rassure, en Normandie, c'est pareil pour l'instant.
Ouais, un petit rayon de soleil. Un peu frère, la Normandie, l'Île-de-France, on est un peu frère sur le temps à chaque fois.
Ouais, clairement. On vous apporte ça pour dans 2 heures environ. Hein.
D'accord.
Manu Lanvin, c'est un plaisir. On s'était parlé au téléphone là, dans la radio il y a 2 ans pour la sortie de l'album précédent, qui a été réédité ensuite en 2015. Et là, c'est déjà un nouveau disque avec le diable dans le dos. T'as le diable aux fesses, Manu, qu'est-ce qui se passe?
The Devil Blues. Non, pas aux fesses, il est dans mon dos, il est entre parenthèses, il est pour moi derrière moi aussi quelque part. J'ai dû rassurer ma pauvre petite maman qui était très inquiète de voir son fils se dessiner des conneries sur le corps. D'une manière générale, je pense qu'on a tous le diable en nous, c'est une manière, on a chacun notre propre manière de le maîtriser. Et je trouve que tous les événements en ce moment, tout ce qui se passe, le diable est donc très présent et je vois des gens qui le dominent plutôt bien et d'autres qui le dominent absolument pas. Moi, par principe, j'aime garder mon ennemi très près de moi. Donc voilà, je sais que le diable est notre ennemi à tous. Le fait de l'avoir près de moi, ça me permet, il reste assez sage finalement, tu vois.
Alors toi qui as réussi à domestiquer ton propre diable et qui passe actuellement dans Radio 666, The Devil's Radio, on est d'accord, tu continues à t'appeler Manu Lanvin and The Devil Blues. Ça c'est quelque chose, c'est une chose à laquelle tu tiens, d'avoir un nom de groupe.
Oui, d'une part parce que c'est l'image déjà de cette formation en trio, hein. Je défends ces 3 derniers albums comme toujours en trio, donc pour moi c'est une image de moi sur scène qui est le trio, et bon, le David Blues faisait référence bien évidemment quand j'ai ça qui est rentré un peu sur la pochette de mes albums. Ça faisait directement référence à Robert Johnson, à Me and the Devil Blues, toujours à cette dualité entre moi et l'autre. Mais finalement voilà, les gens qui m'accompagnent sont des gens maintenant très référençables. On fait beaucoup de concerts, on fait 100 à 120 dates encore
cette année. On va passer ça, ouais.
Et donc finalement mes acolytes, moi je leur donne de l'espace pour s'exprimer. Jimmy qui est là depuis le début, bon, on a eu quelques petits changements au niveau des bassistes, il n'empêche que voilà, les gens qui nous suivent aiment lire des choses de l'ordre, pour certaines femmes, de l'intimité, je vais balancer, non, mais créer des choses avec mes musiciens dans la relation sur scène, et donc je trouvais important de les mettre en valeur à chaque fois.
Voilà. Manu Lanvin, avec Jimmy Montou à la batterie, petit changement de bassiste, tu l'as dit, maintenant tu joues avec l'un des deux à l'ouest, hein, c'est ça, les frères Bélanger. Nicolas Bélanger, et que tu as débauché de chez Paul Personne. Dis-moi Polo, il va falloir qu'il se trouve un nouveau bassiste maintenant, non?
Écoute, tu sais quoi, j'ai quand même appelé Polo avant de le débaucher.
Je m'en doute un peu quand même.
Paul en lui disant, voilà, au début que Nicolas, moi je connais Nicolas depuis longtemps, faut savoir, voilà, on s'est croisés, côtoyés beaucoup avant même d'imaginer, qu'il jouerait de la basse pour moi.
Ouais.
Et puis il est venu dans un premier temps pour faire un petit remplacement. Il y a une période de transition dans le Daily Blues au vu du dernier album qui a été enregistré avec un super bassiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Fred Le Russie et qui malheureusement, voilà, au niveau des plannings, ça ne fonctionnait pas, il ne pouvait pas prendre la route avec nous.
D'accord.
Donc Nicolas est venu au début et puis on l'a très vite adopté, et je me suis permis d'appeler bien évidemment Paul en disant j'espère que que tu n'y vois pas l'inconvénient et tout ça. Et Paul ne m'en a dit que du bien. Et c'est avec beaucoup d'amour qu'il me l'a envoyé. Donc ça reste en famille, ça.
Bon, ben,
ça
reste voilà. En famille. On n'était pas trop inquiets de toute façon parce que voilà, c'est ce genre de tour qu'on se joue pas forcément entre gentlemen. Et je pense que du côté de Paul et du ton côté, Manu, voilà, on vit pas avec toi. On n'est pas dans ta chambre hein, toutes les nuits, mais on sait à quel genre de personnage on a affaire. Je crois qu'on peut dire de toi que tu es quelqu'un d'intègre et de sincère.
Écoute, c'est gentil de remarquer ça. Moi, je suis les codes et l'éducation que mon père m'a donné. Mon père, on le connaît aussi. On connaît son franc-parler, on connaît sa manière d'être. Et elle est assez raccord avec ce qu'il fait, quoi. Et je pense qu'on gagne en exactitude, on gagne en vérité, plutôt, excusez-moi. On gagne en vérité à devenir, à trouver son exactitude. Et moi, ce mode-là, la parole, le respect... tout ce genre de choses-là me conviennent. Moi, c'est des modes qui me plaisent. Et je suis content d'avoir reçu ces valeurs-là. J'aurais pu les contester, devenir un saltimbanque. Bon, la musique m'a beaucoup corrigé. La musique m'a donné un horizon, un bel horizon. Mais moi, ces codes-là d'honneur et tout ça, c'est des choses auxquelles je suis fidèle. J'essaye, en tout cas, le plus possible de l'être.
Et pourtant, j'allais dire, musicalement, tu as côtoyé d'autres horizons. Tu as chanté en français. Tu as travaillé avec des gens complètement différents de ceux que tu côtoies actuellement. Mais tu restes Manu Lanvin.
Éclaire-moi sur la question. Je comprends le sens de ta question.
La question, c'est que tu fréquentes pas du tout les mêmes gens qu'il y a 10 ans. Et ça te pose pas, ça te pose aucun problème, j'ai l'impression.
Non, mais la vie est une continuité. Il y a une série, il y a des gens malheureusement qu'on a perdu sur la route. Je pense à mon vieux pote Calvin. Voilà, ça c'est la vie qui fait que malheureusement les gens se séparent. C'est la vie qui en décide. Puis après, il y a des envies différentes. Il y a des chemins différents. Et puis il y a aussi des gens qu'on retrouve sur la route. Je veux dire, moi j'ai des profondes amitiés avec des gens que je vois pas tout le temps. Et je pense que l'amitié a cette chose de sacré, quoi. C'est que lorsqu'on revoit un vrai pote, mais genre vraiment un ami sur qui on peut compter, qu'on pourrait appeler à 4h du matin si on avait un mec à enterrer, par exemple, je ne souhaite que ça ne m'arrive jamais, mais qui dirait, bah écoute, je viens t'aider, hein, t'as déconné, mais je viens t'aider. Voilà, ce genre d'amis-là, quand on les revoit 2 ans après, parce qu'ils vivent ailleurs, ils sont dans d'autres pays, et ben c'est comme si on les avait quittés juste hier. C'est ça qui est puissant dans l'amitié.
Manu, si tu veux bien, je vais te proposer une série, une liste très courte, hein, en fait, de 5 ou 6 noms. Et simplement, tu pourrais réagir, je ne sais pas, me dire un adjectif ou une phrase ou une réaction en tout cas. Tu vas forcément visualiser la personne à chaque fois que je vais te donner son nom. Et à qui, à quoi ça te fait penser? Est-ce que tu es d'accord de jouer le jeu, Manu?
Allez, je tente le test.
c'est sans filer parce que Sweet Home Chicago, c'est toujours en direct. Hein. Allez, le premier, Fred Chapelier.
Fred Chapelier, mystérieux comme ça à l'approche, mais c'est un sacré guitariste. Moi, je l'ai revu il y a quelques jours, c'est marrant que tu me parles de lui. Il est d'une vraie gentillesse, fait peut-être partie de ces artistes-là qui, finalement, ont une sorte de carapace autour d'eux. Il fait qu'on ne sait pas trop qui ils sont au début, mais je pense ne pas me tromper en disant que c'est un mec bien.
Très bien. Je ne porte absolument aucun jugement de valeur sur ce que tu vas dire, Manu, mais juste dire que Fred Chapelier était à la maison hier soir et on a parlé de toi aussi. Mais ça regarde écoute, pas les auditeurs. Allez, deuxième nom, si
tu veux
bien.
Mais par contre, j'insiste sur un truc, vraiment pour Fred, je veux le dire, c'est un sacré guitariste, quoi.
C'est vrai.
Moi, je l'ai vu dans plein de choses évoluer souvent dans des soirées improvisées comme ça où il n'a pas à défendre son répertoire. Bon, il sait accompagner les autres. Son projet à lui est super. Ça fait partie quand même des sacrés garçons qu'on a, quoi, en France. Ouais. Hein. Il en fait partie. Paul Persson en fait partie, bien évidemment. Mais lui aussi en fait partie, d'après moi.
C'est clair. Deuxième nom, si tu veux bien.
Ouais.
Francis Rateau.
Francis Rateau, je peux dire du bien, c'est mon amour, c'est mon papa, c'est un mec ensoleillé dans le sens que voilà, dès que je le vois, il a ce sourire un peu ravageur. C'est ce sourire qui fait que vous vous sentez tout de suite bien. Voilà, donc Francis, moi, il a tout mon respect, il a toute mon admiration, il a toute mon amitié pour ce qu'il fait au sein des émissions de radio qu'il anime, d'une manière générale. Tout le collectif blues qui travaille ensemble, finalement, indirectement. Ça travaille ensemble, tout ça, pour porter cette musique authentique. J'ai envie de dire le blues et ses dérivés, parce que là et l'intelligence, je trouve, de toutes les radios du collectif, les radios bus du collectif, c'est que elle va dans les dérivés. Vous n'êtes pas des gens obtus qui se cantonnaient juste au Chicago blues. Au blues. Voilà. Non, mais c'est ça qui est intéressant. On a compris qu'on vous êtes les défenseurs de la musique authentique. Pratiquement sous quelque forme qu'elle puisse être entendue, quoi.
Je te remercie, voilà. Manu. C'est vrai que je suis 100% d'accord avec ce que tu viens de dire. Troisième nom, Gaëlle Buzuel.
Gaëlle, elle est incroyable. C'est une bosseuse. C'est une opiniâtre, Gaëlle. C'est une sacrée bonne femme parce que elle les défonce les portes, quoi. Mmh. C'est elle. Moi, je la vois combattre. Elle me fait penser à moi parce que je pense de cette trempe-là. Il a fallu se battre contre beaucoup de préjugés. Être une femme, on sait que c'est toujours pas évident aussi dans ce milieu un tout petit peu machiste. Enfin, les bluesmen,
La preuve, c'est que ce sera la seule femme de la liste, tu vois déjà.
Ah voilà. Et Gaëlle, moi j'ai fait partie des gens que j'aime parce que c'est un petit bout de femme qui se défonce mais grave, quoi. Mmh. C'est-à-dire qu'elle a remonté les manches et elle est partie au combat pour faire exister sa musique, pour juste donner du bonheur aux autres, parce que je pense que ce qui nous rejoint tous, là, des gens que tu viens déjà de citer, c'est que nous, on a envie d'être sur scène pour éclater les autres. On est des entertainers. Donc, on se bat pour que cette possibilité-là existe, voilà, ouais. Pour nous et pour les autres, c'est-à-dire le public.
Exactement, il ne faut pas oublier le public, c'est le pourquoi de la chose finalement, hein, au départ. Le nom suivant, tu en as déjà parlé, donc ça ne compte pas vraiment, Paul Person.
Paul, c'est parti de mes parrains. Voilà, moi, Paul m'a offert mon premier album des Allman Brothers, j'avais 18 ans. Il m'a ouvert finalement une porte que je ne connaissais pas trop. J'écoutais beaucoup, moi, du rock fortement influencé des années 70, tous les groupes un peu rock psychédélique, Led Zeppelin, même Aerosmith, les Stones, Hendrix, bien évidemment, mais il a commencé à m'ouvrir d'autres portes et encouragé dans la voie particulière qui est de faire cette musique, musique que je fais, le rock, le blues. En France, c'est assez couillu, mais... Il a toujours eu les bonnes paroles, le mot juste pour m'aider à continuer à y croire.
Gérard Lanvin.
Ah ben ça, je peux dire, c'est mon papa. Donc, de toute façon, même si c'était la pire des crapules, je pense que je défendrais corps et âme. C'est une sacrée chance d'avoir un mec comme lui et comme ma mère aussi, qui m'ont donné beaucoup d'amour. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Et ça vous rend fort. Il y a eu des moments de distorsion entre mes parents et moi, mais ça fait partie de l'émancipation, c'est normal, dans le parcours d'un jeune homme que j'étais, et aujourd'hui je sais que je leur dois beaucoup. Je leur dois déjà le fait qu'ils m'aient laissé cette liberté-là de tenter de vivre de ma passion.
Mmh. Manu, il me reste deux noms, si tu veux bien. Johnny Hallyday,
incroyable. Incroyable combattant sur scène, à 71 ans, avoir encore l'énergie...
73,
pardon, excuse-moi, ouais. Tu vois. Ah non, mais... mais bon, 73, 71, on est dans des décennies où c'est extraordinaire de voir des mecs qui se tiennent avec autant de force sur scène, avec une voix pratiquement intacte, ce qui n'est pas toujours le cas des grands chanteurs. Voilà. Maintenant, je ne suis pas fan de tout. Hallyday, c'est une énorme machinerie, c'est aussi un peu le showbiz, c'est un peu la musique business. Donc, il doit faire des concessions, mais moi, ce que j'aime des quelques mots que nous avons pu échanger pendant la dernière tournée, c'est qu'il en fait de moins en moins. Mmh. Je pense que c'est sûr, il a dû acquérir, quoi qu'il en soit, une certaine forme de tranquillité, de paix intérieure qui fait que maintenant, s'il monte sur scène, il faut qu'il s'éclate, quoi.
Ah oui, c'est clair.
Donc, il se dirige vers des choses qui me parlent plus, et des choses qu'il a toujours rêvé de faire, le rockabilly, il a ses envies-là de choses comme ça, et moi ça me parle. Moi, le petit set rockabilly qu'il a sur son show, il est top. Il y a une petite parenthèse où ils viennent tous devant dans le public avec contrebasse, caisse claire, au ballet, les Gretsch et tout ça. Honnêtement, c'est un sacré chanteur. Quoi qu'on en dise, c'est un sacré chanteur.
Et il me reste un dernier nom, je voulais finir par celui-là, tu comprendras pourquoi. Pascal Nègre.
parce qu'il y en a, il faut surtout pas l'écouter. De toute façon, il n'est plus chez Universal, donc, mais bon, il est quand même dans des institutions importantes, tu sais. Des institutions importantes qui nous accompagnent, hein, la SCPP, des organismes, ils ont encore du pouvoir dans ce métier-là. Comment dire ? On fait pas le même métier, on fait pas partie de la même famille, lui et moi, on fait pas partie, on fait pas les mêmes choses pour les mêmes buts. Voilà, Pascal, effectivement, nègre, hein, j'ai eu cette réminiscence qui m'est venue en voyant une très jolie photo qu'on a prise de nous au Cognac Blues Passion, avec cette foule immense, voilà, ces 6000, 7000 spectateurs qui étaient venus nous voir sur cette grande scène, et je me suis dit, c'est incroyable que ce mec-là ait pu me dire, ait eu l'audace, peut-être une forme de courage, de me dire, avec le nom que je porte, il y a quelques années de cela, et le physique que j'ai, je pouvais faire une croix sur la musique, quoi. J'étais un homme mort.
C'est ce que c'est violent, tu écrivais ça, l'autre jour.
Vous êtes un jeune artiste, c'est très violent parce que vous n'êtes pas préparé à cette violence-là, déjà, d'une part, parce que vous faites la musique pour des raisons totalement louables, hein. Vous pensez que vous êtes dans votre exactitude, et un mec vous dit que vous êtes totalement mort, que ça ne marchera jamais. C'est très violent, surtout lorsqu'on n'a pas, on n'a rien pour prouver que il y a quand même quelque chose qui existe, c'est-à-dire le public qui nous accompagne, des ventes de disques. Et aujourd'hui, la situation joue un peu en notre faveur. Heureusement, parce que j'ai failli abandonner plus d'une fois. Je veux dire, c'est un chemin de croix de faire de la musique en France. Là, je parle toutes les musiques, je parle pas que du blues. Être un jeune musicien aujourd'hui, s'il y a des jeunes auditeurs qui nous écoutent, je veux dire, accrochez-vous, montez des groupes et n'écoutez surtout pas les cons comme Pascal Nègre, parce qu'il faut écouter sa vérité. Il faut écouter sa vérité. Aujourd'hui, le monde est devenu tellement, tellement compliqué, tellement alambiqué, que je pense que ça vaut le coup de tenter une vie avec une véritable passion, quelle qu'elle soit, hein, la peinture, la sculpture, je sais pas moi, la littérature, écrire des poèmes, la musique, des voyages, faire le tour du monde. Je veux dire, aujourd'hui, il n'y a plus de règles, puisque à être dans le système, vous voyez ce qu'on est en train de devenir en France. On est en train de nous tuer tous. Donc, il faut faire des choses qui nous animent profondément, car la vie, elle est courte. Et il faut jamais rien lâcher et ne surtout jamais écouter les cons.
Alors voilà, ça c'est une très très belle conclusion. Merci d'avoir joué le jeu, en tout cas, Manu, pour cette liste de noms, voilà, des gens que tu as tous vus, côtoyés, admirés, détestés, adulés. Voilà, chacun cochera où il veut. Je crois que c'est tout à fait clair. Merci pour toute cette sincérité qui passe à travers le téléphone. J'ai d'autres questions maintenant par rapport à l'album, mais tu dis qu'il n'y a plus de règles. Est-ce que tu te qualifierais, toi, de nostalgique de cette époque où il y avait des règles, où on savait pourquoi il n'y avait personne ce soir, c'est parce qu'il y avait un match à la télé. Maintenant, il n'y a plus de règles, tout le monde se marche un petit peu dessus, voire plus. Est-ce que tu penses que c'était vraiment plus facile à l'époque de Led Zeppelin, par exemple ?
Disons que c'est juste économiquement, à un moment donné, là par contre, les industriels du disque, je les rejoindrai sur un point, c'est qu'à l'époque, il y a eu un marché qui s'est ouvert.
Oui.
Je veux dire, les gens pouvaient avoir de la musique chez eux.
Oui.
C'est vrai, je veux dire, on a commencé à pouvoir enregistrer dans des studios, bon, bien avant les années 70 déjà, à pouvoir enregistrer, c'est-à-dire de pouvoir garder un souvenir sonore d'un groupe, d'un artiste qu'on aimait, ou découvrir quelqu'un chez nous. C'est formidable. Et donc les gens sont équipés, les systèmes de haute fidélité ont envahi les maisons, et puis du coup, il n'y avait plus qu'à leur vendre des disques à ces gens-là. Voilà, il y avait des maisons de disques qui étaient des maisons de disques artisanales. Je veux dire, Sun Studio, c'était 3 personnes à la base. Stax, c'était aussi 4 personnes, avec un petit bouclard juste à côté pour faire des tests. Ils pouvaient tester tout de suite, ils voyaient tout de suite déjà au sein de la boutique ce qui plaisait, ce qui plaisait pas. Il y avait un truc un peu plus familial, plus humain, quoi, plus humain. Et je crois que les gens qui s'adonnaient dans ces activités-là étaient des gens qui étaient des passionnés. On le faisait aussi par passion, par l'amour de la musique, même s'il y avait il y avait une fin commerciale à tout ça. Aujourd'hui, on a totalement perdu. Enfin, je veux dire, quand on nous vend des artistes comme Vincent Niclot, Benabar et tout ça, moi je me reconnais pas là-dedans, quoi. Il y a un truc, c'est donc qu'on pourra dire en quelque sorte que je suis un nostalgique. Bon, en même temps, il y a des groupes aujourd'hui que j'adore, des artistes que j'aime beaucoup et pas que des gens du blues.
On n'est pas obligé d'aimer tout le monde, ça c'est une première chose. Et puis la musique qui nous plaît, c'est pas forcément une musique avec un style en particulier. Enfin, je pense que tu en es un bon exemple. Il y a des gens autour de moi, tu parlais tout à l'heure des collègues de radio qui défendent pour certains le Chicago blues pur et dur, d'autres qui ont un esprit plus open. Moi, j'entends parfois des gens dire, ouais, mais Manu Lanvin, c'est pas un bluesman.
Ouais.
Moi, ces gens-là, on s'en fout, ça me fait chier.
Ah non, non, mais ouais, bon, il y a des obtus partout, il y a des maniacos partout.
Ça veut dire quoi, être un bluesman en 2016? Ça veut dire quoi?
Non, mais je revendique très fort. D'ailleurs, ce qu'ils savent pas, c'est qu'ils publicitaient des gens comme Kevin Russell, de vous à moi. Kevin Russell détestait le blues 12 mesures.
C'est vrai.
Non, mais il détestait ça, mais retrouver les interviews, il le disait, et moi, il me le disait. Il m'a dit, moi, je ne supporte pas le blues. Moi, je fais un truc contemporain, voilà, mélangé avec des Roland blues, avec des Roland country, avec des Roland folk. Et moi, aujourd'hui, je ne vais pas faire du blues du Delta aussi bien que le faisaient les Rolling Wolf, les Skip James, et ainsi de suite. Mon idée à moi, c'est de faire, bien évidemment, quelque chose de contemporain. Donc, il y a plein de courants musicaux qui se fusionnent. Et d'ailleurs, c'est ce que Calvin avait repéré à l'époque lorsqu'il il a déjà, d'une part, accepté que je produise son album, mais surtout qu'il m'a envoyé la balle en me disant « Non, tu vas faire pas que produire, tu vas m'écrire les titres parce que ta musique, dans ce que je lui proposais, il sentait des mélanges très différents, comme si j'avais fusionné de la musique de plein d'états différents. Ouais. Il était capable de les décoder, mais d'une manière très précise. Alors moi, j'étais étonné, parce qu'effectivement, moi, j'avais fait une sorte de fusion générale. Je vis pas aux États-Unis. Et ce qui est ça qui m'intéresse, si c'est proposé du Chicago Blues, et très honnêtement, le Chicago Blues, moi aussi, m'emmerde un peu. Hein.
Manu, est-ce que tu as compris maintenant pourquoi je n'ai pas inclus Calvin Russell dans ma liste de noms?
Non, je sais pas pourquoi.
Eh bien, parce que j'étais sûr que tu allais m'en parler de toute façon.
Ah, ok, d'accord.
C'est clair. Non, mais voilà, on en avait parlé lors de la dernière interview il y a 2 ans. Et puis, c'est vrai que tu l'évoques également dans cette interview que tu as accordée à Blues Magazine. On va revenir rapidement maintenant peut-être sur l'album. Tu sais, il y a des gens qui écoutent un petit peu l'émission de l'autre côté du poste et puis qui s'intéressent à ce qui se passe et à ce qu'on est en train de dire sur Facebook. J'ai un ami qui s'appelle Pedro Sabater qui voudrait savoir par rapport au titre J.J. Kell on the radio, s'il y avait du vécu dans ce titre-là, Manu.
Ah, de se tailler la malle, ouais, combien de fois je l'ai fait, le jour où j'ai quitté la mère de ma fille.
J.J. Kell on the radio, l'album, sur l'album, le titre J.J. Kell.
Ouais, mais ce titre-là parle quand même d'un mec qui se taille la route.
Et c'est ça.
Qui décide de se tailler la route.
C'est autobiographique, c'est ça.
Je trouve que J.J. Kell, quand on prend la malle et qu'on ouvre le poste de radio, y a une incitation à la route, il y a une incitation au voyage, il y a un côté très cinématographique. J.J. Kell est un homme de liberté. Rappelez-vous, il vivait dans son Airstream toutes les dernières décennies. Il les a passées dans un endroit loin de tout le monde, dans l'Arizona. Il y avait un truc comme ça chez J.J. Kell qui me parle. C'était un petit hommage que je voulais lui faire aussi, d'une part. J'ai eu l'impression, peut-être que je n'ai pas réussi, mais qu'en reprenant ces petites formules de picking harmonique qu'il y a dans ce titre-là, qu'on était un tout petit peu dans ses souliers. Et c'est ce qui m'a plu de faire sur ce titre aussi. Voilà.
Et le reste du matériel de tout l'album, 12 titres, c'est de la compo, Manu.
Ah oui, mais tout est de la compo. Ah,
voilà. Non, on le précise, on le dit parce que c'est pas écrit sur la pochette. Et en plus, tout le monde ne sait pas.
Il n'y a aucune reprise.
Ça va mieux en 10 ans, non? Je ne sais pas. J'ai pas dit que c'était mal de refaire des côtes, des reprises. C'est très très bien aussi.
Ah non, mais j'adore. Eh ben ouais, sur la réédition, on fait des titres, on en fait beaucoup sur scène. On fait pas mal de covers et il nous arrive d'en enregistrer d'ailleurs des versions qu'on aime bien, qu'on trouve un peu différentes des originaux. Mais non, là, le nouvel album Blues Blues and Rock'n'Roll, comme la plupart de mes albums, ce ne sont que des œuvres originales. Et ce petit clin d'œil à J.J. Kell, je le trouvais intéressant. Voilà, intéressant dans l'album. Et voilà. C'est quelqu'un que j'aurais voulu rencontrer, pour tout te dire. Et figure-toi que j'ai Robert Moriès, du Cairo Blues Festival, qui a tenté quelques années avant, un an avant que J.J. Kell nous quitte, a essayé d'organiser cette rencontre.
D'accord.
Et ça m'aurait plu, voilà. Donc, voilà.
Très bien. Bah, en tout cas, il y en a plein là où ils sont en train de buffer. Peut-être qu'ils jouent avec Johnny Winter en ce moment, on ne sait pas.
On ne sait pas.
L'album s'appelle Blues on Rock and Roll. Il est sorti hier. C'est du tout récent. C'est chez Vericords, un label pour lequel tu as envie d'être fidèle, Vericords.
Ah, que dire. S'ils m'écoutent.
Bah oui, ils vont écouter.
Vous savez, nous, on est contents de travailler avec Vericords. Ils ont une très belle ligne éditoriale. Ils ont Popa Chubby, ils ont Anna Popovic, ils ont Paul Persson, Enfin, tous ces gens-là sont venus après que moi je sois chez des records quand même. Je tiens quand même à
Pas de Choubi, l'album vient juste de sortir, effectivement.
Ouais, oui. C'est très marrant parce qu'avant ils étaient plus orientés métalleux. J'étais le seul artiste, on va dire, blues rock. Et il y en a beaucoup qui ont rejoint des records. Je trouve ça bien, ça fait une belle famille, c'est une belle ligne éditoriale.
Il y a eu une petite redistribution des cartes avec la restructuration de Dixie Frog aussi, il ne faut pas se le cacher.
Peut-être aussi, sans doute, très certainement, c'est vrai. Mais tant mieux, moi c'est des artistes que j'aime, donc je suis content dans une maison, en tout cas ils comprennent qu'on est des artistes nous qui faisons de la scène, et qu'il faut pas nous emmerder lorsqu'on fait un album, parce que c'est un arrêt qu'on décide de faire ou pas, quoi. Je veux dire, on n'a aucune obligation de livrer un album, puisque nous savons par-dessus tout que le genre de musique que nous faisons, il faut aller l'écouter, la voir sur scène, quoi.
Ben oui, c'est clair. Ça, c'est ce que tu nous avais déjà dit. C'est ce que répètent beaucoup d'artistes. La musique, ça se vit sur scène. La radio, ça se fait en direct, etc. Enfin bon, voilà. on va pas enfoncer des portes ouvertes. J'ai un petit message de la part de Laurence Lelanne qui te passe un petit mot pour te dire qu'elle a un très beau souvenir de l'interview qu'elle a faite de toi par mail. Donc voilà, ça c'est un remerciement. Et puis, il y a également Pedro qui me demande à nouveau si tu aurais une anecdote sur la tournée de Johnny à nous livrer, comme ça, brut.
Une anecdote sur Johnny, sur la dernière tournée à vous livrer.
Ouais. Oh, un truc rigolo, un truc chiant, un truc.
Rigolo, je sais pas. J'essaye de.
Une galère.
Non, c'est marrant. Je pense pas à lui. On en a eu avant, nous, des anecdotes. On en a eu à Saint-Barth et tout ça, lui et moi, des anecdotes assez amusantes. Mais ce qui m'a halluciné, c'est lorsque ma fille est venue me voir en concert. Ma fille est venue me voir au Zénith à Nantes, lorsque j'ouvrais pour lui, à Nantes ou à Rouen, à Rouen. Et elle connaissait pas Johnny Hallyday. Je pense même que c'est la première fois qu'elle venait voir un concert dans un grand Zénith, quoi.
Elle a 6 ans.
Quand elle a vu Johnny débarquer, elle savait pas qui c'était. Et la première réflexion qu'elle a dit, oh, on dirait ton papa.
Génial.
J'ai trouvé ça mignon, c'est-à-dire le fait d'être sur scène, dans la posture d'un chanteur, quelque part malgré lui, un peu leader de son histoire, elle y a vu cette similitude-là et j'ai trouvé ça amusant de sa bouche. Mais voilà, c'est la seule anecdote comme ça qui me vient. Quant à Johnny, sur les tournées, il est sur sa tournée en dehors, il est beaucoup plus ouvert. Sur cette tournée, il faut savoir que c'est un mec qui reste quand même très très concentré.
Boulot.
Parce que c'est un taf pour lui énorme, ouais, et moi je vois un mec qui est très dans la concentration, tout est minuté, il arrive un peu au dernier moment, il repart très peu de temps après le show, parce qu'il a besoin de se conserver son énergie et de rester très concentré. Sur scène, moi j'encourage les gens, quoi qu'il arrive, à aller le voir, même si certains auditeurs, je sais, sont hostiles, parce que ils pensent qu'il a quelques casseroles et tout. Je le dis, moi, ce que j'ai vu de cette parenthèse avec Yarol, qui est un super guitariste, qui est son directeur d'orchestre, ce qu'il a su faire sur cette petite parenthèse un peu rockabilly, un peu plus où il y a des petites Elvis, il y a des trucs super. Honnêtement, c'est très 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 bien fait. Et là, sur le coup, je pense qu'il y a beaucoup de cover bands, même de ce type de registre, qui peuvent prendre une leçon de comment c'est fait, parce que c'est très très bien fait de sa part.
Manu, je vais pas te prendre tout ton temps, je sais que tu es entouré, il y a des gens qui t'attendent. J'ai juste une toute dernière question à te poser, et puis après le morceau qui suit, j'aurai l'occasion d'annoncer toutes les dates, parce qu'il y a plein d'endroits où on va pouvoir t'applaudir en 2016 et en 2017. Juste la toute dernière question, Manu, elle est un petit peu bateau, mais je suis désolé. Quel est l'artiste vivant avec lequel tu aimerais enregistrer ou jouer sur scène actuellement ?
Il y en a beaucoup. Il y en a deux qui me viennent comme ça. Moi c'est marrant, j'ai redécouvert Eric Clapton. Au travers de
JJ Cale
de Derek and the Domino surtout.
Aussi, d'accord, ouais.
J'ai pris une claque, en fait, cet album, je suis passé à côté, j'avoue. Excusez-moi, battez-moi.
C'était avant ta naissance, Manu. Il est sorti avant ta naissance, le disque.
Je suis passé à côté, je suis tombé sur cet album et je me suis dit, mais comment ce mec n'a jamais pu chanter aussi bien que cet album-là? Il a un son de fou furieux, il met à l'amende Freddie King au niveau du son, tellement qu'il a un son de dingue. Et il n'a plus jamais eu cette image-là. Alors, je pense que la drogue, les produits et tout ont fait. Et en écoutant ça, je me suis dit, c'est incroyable, toutes les vies qu'a eu ce mec. Oui. Eric Clapton, il les a tous rencontrés.
Tu sais qu'il a enregistré, il a enregistré cet album, il avait 25 ans, Clapton.
Ouais. Et du coup, je me suis enfin dit un truc que tout le monde sait. mais moi je m'étais pas fait la réflexion. Puis mais le nombre d'artistes qu'il a dû rencontrer, il les a tous connus.
Évidemment.
Et avant que bon, il a encore la pêche et tout. Ouais, j'aimerais bien peut-être pas jouer, mais j'aimerais bien passer 2 heures à tchatcher avec lui. Mmh. Parce que j'ai tellement à apprendre de ce genre de mec.
C'est quand même un type qui a dû tartiner les tartines de B.B. King au petit déjeuner régulièrement.
Ouais.
Enfin, non, voilà. C'est,
voilà. C'est,
et puis,
voilà,
et puis ben, il a été un grand ami de J.J. Cale également, ça, on peut le,
ben
le signaler.
Voilà, ouais. Voilà, pour tout ce genre de raisons-là, ça me plairait. Il me paraît être quelqu'un de humble, sympathique. Quand je le vois sur le Crossroads Festival, monter sur scène avec un short, alors, au début, ça me faisait rigoler. Je dis, mais quand même, il pourrait venir avec autre chose. Non, il n'en a plus rien à foutre. Il y a un côté comme ça, je m'en branle. C'est comme ça qu'il monte sur scène. Bah, et voilà. J'aimerais vraiment pouvoir passer. J'adorerais en tout cas pouvoir discuter un petit moment avec vous. Voilà.
À mon avis, ça va se faire. Manu, merci beaucoup. Merci pour tout, vraiment. Si j'ai oublié un truc, si tu as quelque chose à dire, vas-y, profite. Et puis, je te dis déjà merci pour ta sincérité, ton honnêteté et ton courage. Parce que, voilà.
Merci à vous tous d'encourager mon projet depuis le début maintenant. Francis Ratto, d'une manière ou d'une autre, m'a présenté à vous tous et je me rends compte qu'on est une belle équipe tous ensemble. J'entends toutes les radios qui défendent ce genre de courant authentique, qui font découvrir des nouveaux talents. On parlait de Gaël Buzwell aussi, il n'y a pas si longtemps que ça, mais il fallait encourager son projet.
Bien sûr.
C'était encore dans l'ombre, mais il y a encore du travail à faire. Et je veux dire, grâce à vous, on existe. Grâce à vous, il y a du public qui vient nous voir. Il y a tout un réseau, d'ailleurs on retrouve un peu les mêmes, hein. Il y a une belle tribu qui accompagne tous ces artistes que vous promotionnez à longueur de journée, et je trouve qu'on est une belle famille. Je suis très fier de la famille que nous formons tous ensemble.
Manu, pour terminer, félicitations pour ta première place au Power Blues de septembre 2016, hein, vraiment.
C'est rien, j'y peux pour rien et je n'ai jamais fait de la musique pour être le premier, en tout cas.
Et alors que l'album n'est pas sorti encore. Il est sorti hier, hein, c'est ça, Manu.
Il
je
est
crois.
Sorti hier, voilà. Exactement.
Bonne route à toi. Je sais qu'il y a plein de dates qui t'attendent. J'espère te voir très bientôt. J'espère même très proche, très prochainement. Et peut-être bien encore plus près que tu ne penses. On verra ça avec Caroline. Hein. On va voir ce qu'on peut faire. Enfin, ou ce que toi, tu peux faire surtout. En tout cas, ça sera avec plaisir. J'annoncerai les dates tout à l'heure. Manu, je te laisse à tes amis. Et puis, je te dis encore un grand, grand merci.
Merci à toi, Marc. À bientôt, j'espère.
À bientôt.
Ok.
Merci, Manu.
Ciao, ciao.
Ouais.
I was born on a stormy day. November rain on my face. I was born the same Saturday. When my mama lost her man, I was born on a rainy day, on a windy day.
Manu Lanvin, merci encore pour cette belle interview pleine de sincérité. Manu Lanvin on the Devil Blues, album Blues, Booze and Rock and Roll. C'était I Was Born, disque du mois d'octobre pour Sweet Home Chicago. Et puis également, vous l'avez compris, premier au Power Blues de septembre 2016.
Be my booze, be my blues when I lose.
Ça s'appelle Are You There?
Are you there? Are you there? When the mist is in my soul, do you care? Will you dare? Are you there? When there's heat in the cold, whenever luck ain't on my side, do you care? Will you dare? Are you there? You're like sunshine in my face, a sound mellow like a bass. Oh, that sunshine on my face, a sweet melody full of grace. Are you there when I'm red, when I'm drinking myself dead? Do you care? Will you dare? Are you there? When you smile, I'm so fly. You're the sunshine on my face. When you smile, girl, I try not to show I love you in any case. Are you there? Are you there? When the mist is in my soul, do you care? Do you care? Are you there? Like a bass, hot as sunshine on my face, a sweet melody full of grace. Are you there? I don't know. Will you be there tomorrow? Now you're gone, I'm the fool at your grave.
On va écouter encore un nouvel extrait de l'album de Manu Lanvin, On the Devil Blues, et puis juste après, on va se faire plaisir, et on va peut-être faire plaisir à Manu, avec le titre qui vient. Voici She's the Bomb, c'est Manu Lanvin.
She's an Iggy Pop, nasty baby, Janice, a baddie.